Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
Alors Marc, qu'est-ce que tu regardes depuis le début de la saison d'automne ? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui t'ont frappé ?
Ouais, alors moi j'ai une attitude un peu bizarre par rapport aux séries, c'est-à-dire que souvent les séries que j'aime le plus, j'enregistre et puis je les garde de côté avant de regarder, puis je regarde les nouveautés. Et puis je regarde quelles sont les nouveautés auxquelles j'accroche et auxquelles j'accroche pas. Et il y a trois nouveautés. Enfin, c'est des semi-nouveautés parce que ça a commencé l'an dernier, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que les séries, souvent, il faut attendre les 6, 8, 10, 12 premiers épisodes pour que ce soit vraiment installé dans une continuité, dans une œuvre, ne serait-ce que parce qu'il leur faut 6 ou 7 épisodes pour savoir si elles vont durer au moins une saison, c'est-à-dire s'il y a l'audience, si la chaîne décide de commander 9 épisodes, 13 épisodes ou 24 épisodes. Et puis pour qu'ils se mettent vraiment en marche, c'est-à-dire que les scénaristes se mettent vraiment dans un travail qui est un travail de longue durée. Alors moi, il y a trois séries qui ont commencé l'an dernier et que je regarde de manière relativement régulière parce que vraiment je les aime beaucoup. C'est Lie to Me, c'est The Mentalist et puis c'est Castle. Alors a priori, ce sont trois séries qui sont des séries policières ou assimilées. J'aime beaucoup les séries policières, non pas parce que j'aime les crimes, mais parce que j'aime la justice et le mystère, et surtout les puzzles intellectuels qu'on peut résoudre. Alors les trois séries ont une tonalité complètement différente. La première, The Mentalist, c'est le grand succès d'audience de l'an dernier sur CBS. C'est une série dans laquelle un personnage assez trouble, qui est un type qui a été une sorte de prédicateur... guérisseur, gourou, etc. pour tout un tas de gens qui leur faisaient un petit peu revivre leur enfance, qui disaient qu'il était un peu spirit, il mettait les gens en communication avec l'au-delà, etc. Et c'est un escroc qui était extrêmement riche, extrêmement populaire. Un jour, sa femme et sa fille sont assassinées. Et d'un seul coup... il se rend compte qu'il a vécu dans un mensonge, il a manipulé les gens, etc. Et là, il a été manipulé par quelqu'un d'autre qu'il a puni de ses manipulations. De sorte qu'il va mettre au service de la justice, il va mettre ses capacités psychologiques, parce que c'est un grand psychologue, c'est quelqu'un qui arrive à lire les gens, et c'est pour ça qu'il arrive à les manipuler. Mais là, au lieu de les manipuler, il décide d'utiliser ses moyens de lire les gens, pour le bien, c'est-à-dire pour aider la police. Donc il aide une sorte de petite unité qui s'appelle le CBI, le California Bureau of Investigation, qui est une sorte d'antenne du FBI, peut-être imaginaire. Et donc c'est un type qui a donc une psychologie très, très importante, mais qui a aussi une personnalité très bizarre, parce qu'il est très beau. Il est joué par un acteur dont j'oublie le prénom mais qui s'appelle Baker, enfin, peu importe, il est très beau, il est très séduisant, etc. Il est tout le temps souriant, donc on a envie de le baffer parce que il t'embobine. Et en même temps, c'est un personnage qui il est toujours en train de plaisanter. Le dernier épisode que j'ai vu, c'est très rigolo. Il se fait mettre en prison parce qu'il a voulu espionner un type qui enquête sur le criminel qui est responsable de la mort de sa femme et de sa fille. Il lui a collé un micro sous le bureau. On l'a découvert, donc on lui dit « soit vous démissionnez, soit vous allez en prison ». Il dit « non, je ne veux pas démissionner, donc vous me mettez en prison ». Et quand il arrive en prison, il embobine tous les prisonniers, à commencer par celui avec lequel il est en cellule, puis le chef de gang qui dirige dirige toute la prison, et il mène son enquête de l'intérieur de la prison. Donc c'est une série relativement légère, hein, c'est pas très sérieux. Le personnage est très intéressant, mais surtout la façon dont il analyse les gens est très intéressante. La deuxième série ressemble à The Mentalist, ça s'appelle Lie to Me. Il y a Tim Roth,
grand acteur Tim Roth,
dans le rôle d'un psychologue, un psycho-anthropologue, qui a examiné le langage corporel de tous les humains. Il est allé, alors c'est une sorte de Margaret Mead du langage corporel, il est allé en Indonésie, en Afrique, etc. Et il en a tiré une technique qui consiste à lire sur les visages et sur les corps l'attitude des gens et à deviner si ces gens-là disent la vérité ou pas, quels sont leurs sentiments et compagnie. Sauf que là, c'est présenté non pas de manière ludique comme The Mentalist, mais de manière très scientifique. Et c'est d'ailleurs basé sur les travaux authentiques d'un psychologue authentique, d'un psycho-anthropologue authentique. C'est une série beaucoup plus grave. C'est une série très intéressante parce qu'il y a Tim Roth qui est donc ce petit rat, qui lui-même est un personnage très, très trouble, très ambigu, parce qu'il sait évidemment quand tout le monde ment, mais lui, il sait mentir sans que ça se voit, bien entendu. Donc c'est très intéressant ce que la série dit sur qu'est-ce que c'est que le mensonge, comment on communique avec les autres, comment on manipule ou non les autres. Il a des relations avec sa fille, il est très protecteur parce qu'ils sont divorcés, etc. Et donc, il essaye un petit peu de savoir ce que fait sa fille. Et sa fille en a ras-le-bol d'avoir un type qui l'analyse tout le temps, ce qui est aussi une satire des parents psychanalystes ou des parents qui protègent leurs enfants en leur disant « je sais ce que tu penses », etc. Mais c'est beaucoup plus réaliste et surtout, c'est pas aussi mécanique que The Mentalist. C'est une série dans laquelle tous les épisodes commencent de manière très différente, avec des situations très différentes. Et en plus, il faut savoir que depuis cette saison-là, la série est co-écrite et co-dirigée par Sean Ryan. Sean Ryan, c'était le showrunner et le créateur de The Shield. Donc il y a une vision beaucoup plus noire des choses. Et d'ailleurs, depuis le début de la deuxième saison, les histoires qui sont racontées dans Lie to Me sont beaucoup plus noires. Mais là aussi, il y a tout un tas d'interrogations sur qu'est-ce que c'est que le mensonge, qu'est-ce que c'est que l'éthique d'une entreprise, par exemple, qui dit « je veux savoir si tel ou tel de mes employés ment ou dit la vérité, autrement je le vire ». Donc comment on peut utiliser ces connaissances scientifiques pour le profit de quelqu'un qui veut virer quelqu'un d'autre, etc., en rentrant dans sa vie privée. Ça pose des tas de problèmes sur la vie privée et sur la façon dont on analyse ça. Et il y a un truc, un gimmick très rigolo dans cette émission, c'est que de temps en temps, quand on voit quelqu'un qui a une attitude qui montre justement le mensonge ou la gêne ou l'angoisse ou la colère ou le mépris, eh ben, ils te mettent des photos d'hommes politiques et de personnalités réelles pour te montrer que c'est la même mimique. Donc, il y a un côté très pédagogique, c'est-à-dire que tu apprends aussi petit à petit à lire les expressions sur les visages des gens. La troisième série, qui s'appelle Castle, a des rapports aussi avec celle-là. Et ça, c'est une série qui est aussi assez légère, qui est l'histoire d'un auteur de roman policier qui s'appelle Richard Castle, qui est joué par Nathan Fillion, qui est un acteur tout à fait merveilleux, qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, qui fait une enquête pour essayer de décrire un roman policier réaliste basé sur un vrai flic. Et donc, on le met à faire équipe. Le maire de New York impose à un commissariat de le prendre comme équipier d'une enquêtrice, d'une détective, qui s'appelle Beckett. Et il va la suivre pas à pas, il va enquêter. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une sorte de métadiscours sur ce que c'est que le roman policier et comment le roman policier et les élaborations fantasmatiques de Nick Castle permettent d'aider les policiers à enquêter sur des vrais crimes, mais on sait qu'on est quand même dans une fiction. C'est-à-dire, c'est une mise en abîme de la fiction policière avec le personnage du narrateur de roman policier comme personnage de roman policier. Ils sont même allés très loin puisqu'ils ont poussé le crime, c'est le cas de le dire, ils ont poussé le vice et le crime, jusqu'à écrire un roman qui est un des romans qui est censé être écrit par le personnage de la série et qui est maintenant en librairie sous le nom du personnage qui est donc un personnage d'auteur.
Et comment s'appelle-t-il?
Ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle White Heat ou je sais plus quoi. Mais enfin, c'est donc un roman de Richard Castle qui est donc ce qu'on appelle un TV tie-in, c'est-à-dire c'est pas un roman tiré de la série, c'est un des romans dont il est question dans la série. C'est comme Misery de Stephen King, tu sais, quand Stephen King écrit Misery, il met à la fois Il raconte l'histoire d'un écrivain qui est martyrisé par quelqu'un qui le prend, par une lectrice qui le prend en otage. Mais en plus, il te fait lire le roman que la lectrice, comment dirais-je, bourreau, fait écrire à l'auteur de roman à l'intérieur du roman. Donc, tu as un roman à l'intérieur d'un autre roman. Et bien là, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont pris le roman fictif de Richard Cassol et ils l'ont publié. Tu le trouves chez Amazon.
Est-ce qu'il a du succès?
Je ne sais pas encore, parce que c'est tout récent. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir. Alors, c'est trois séries qui ont commencé. The Mentalist a tout de suite eu du succès, mais les deux autres ont commencé simplement avec 13 épisodes en deuxième partie de saison. Et elles ont eu un succès suffisant pour qu'elles soient reconduites. Et c'est là qu'on voit que ce qui est intéressant, c'est quand les gens savent qu'ils vont être reconduits pour une année. Ils ajustent les trucs avec lesquels ils n'étaient pas tout à fait à l'aise dans la première saison, et puis ils se mettent en vitesse de croisière pendant la deuxième saison, parce qu'il faut consolider l'audience qu'on a eue à la première pour pouvoir durer encore un peu plus longtemps, pour pouvoir établir la série comme une sorte de rendez-vous obligatoire d'un certain nombre de gens, de façon à pouvoir continuer. Et là, en général, quand ils sont assurés d'une deuxième saison, ils se défoncent. Ils se défoncent dans le sens de ce qu'ils ont fait pendant la première saison, parce que comme ça a marché, la chaîne leur dit « bon, on touche à rien », mais eux, ils se disent « voilà, nos points forts, c'était ça, nos points faibles, c'est ça, on va accentuer nos points forts, on va essayer de régler les points faibles ». Donc on a des deux secondes saisons de série qui sont en général beaucoup plus audacieuses et singulièrement, c'est beaucoup plus audacieux dans les deux petites qui marchaient moins bien, c'est-à-dire dans Castle et dans Lie to Me, que dans The Mentalist, qui, elle, a eu un tel succès qu'ils sont un peu déjà en vitesse de croisière. Donc, c'est intéressant de les voir évoluer toutes les deux. Et toi, qu'est-ce que tu as regardé depuis le début?
Alors, moi, c'est toujours un peu l'angoisse quand septembre arrive, parce que c'est le moment des nouvelles séries. Maintenant, peut-être un peu moins, il y a des séries qui commencent à l'été. On a un peu laissé de côté cette tradition qui voudrait que les nouvelles séries partent à l'automne. C'est toujours un peu angoissant parce que comme j'ai toujours une demi-douzaine de séries que je suis déjà, le fait de savoir qu'il pourrait y en avoir deux ou trois ou quatre autres me met une pression absolument terrible. Comment est-ce que je vais réussir à regarder tout ça? Alors, pour l'instant, je n'en ai ajouté qu'une à mon répertoire. C'est une série qui m'a permis de renouer avec un des grands amours télévisuels de ma vie, l'actrice Juliana Margulies, qui jouait pendant 2-3 saisons un des personnages les plus intéressants de ER, à savoir Nurse Hathaway, qui était la copine de George Clooney, qui lui aussi a fait ses débuts, enfin, qui s'est fait connaître par le grand public dans ER dans ses premières saisons. C'est quelque chose dont on devrait peut-être parler en passant. Le piège que peut représenter pour un acteur le fait de trop bien réussir dans une série. Ouais. On pourrait passer des heures à passer en revue de très bons acteurs qui ont été à tel point identifiés à des personnages de télé qu'ils n'ont plus pu rien faire d'autre par la suite dans leur carrière, tellement on se disait, tiens, pourquoi est-ce que le Dr Green est en train de nous faire penser qu'il est autre chose que le Dr Green, pour quand on pense à l'acteur dont j'oublie le nom.
Anthony Edwards,
qui a joué le Dr Green pendant une dizaine de saisons dans ER. Mais donc, Juliana Margulies, ça faisait des années qu'on l'avait vue ça et là, dans des films deuxième catégorie, dans des rôles de soutien, etc., qui là, maintenant, devenue une femme d'un âge mûr, mais toujours aussi magnifique, joue un avocat, une femme qui revient à sa carrière d'avocate parce que son mari, qui était le state attorney, s'est fait prendre un peu comme le gouverneur ou le procureur de New York l'an dernier dans une glauque histoire sexuelle où il aurait utilisé des fonds publics pour s'acheter des faveurs sexuelles d'une prostituée de très haut luxe. Alors, ce qui est intéressant dans cette série, outre le fait qu'elle me permet de renouer avec Juliana Margulies et avec ce très bon acteur Chris Noth qui joue le mari qui était dans Law and Order il y a
très longtemps
et aussi Mr. Big dans Sex in the City. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'elle essaye de faire deux choses. C'est une série qu'on peut regarder, un épisode de temps en temps sans devenir en quelque sorte accro de la série. Il y a des intrigues qui sont débutées et nouées dans l'heure de la série. Mais il y a aussi une intrigue qui en fait, en quelque sorte, donc
un feuilleton.
Un feuilleton. Au départ, on pense tout simplement que le mari est un salaud qui a trompé sa femme, qui a utilisé les fonds publics. Mais les choses ne sont pas aussi claires. Et d'épisode en épisode, on se rend compte que l'intrigue donc, principale de la série, qui est la relation entre la femme et son mari, la femme qui se rend compte que la situation est peut-être plus compliquée qu'elle pourrait le penser. Donc, on ajoute de semaine en semaine de la densité, de la complexité à cette relation et au fait hein, qui, au fait, entourant le scandale donc, dans lequel a été plongé cet homme politique, ou enfin ce procureur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un discours sur les conflits de loyauté. Juliana Margulies est une actrice qui a toujours, à mon sens, su faire beaucoup avec peu. Elle a un répertoire, quand on la regarde comme ça, son répertoire au niveau facial est assez limité. Elle n'est jamais en extase, elle n'est jamais complètement déprimée ou fâchée. Elle a un répertoire très limité, mais avec lequel elle peut faire énormément de choses. Et on sent essentiellement en la regardant que ça travaille à l'intérieur. Et il y a quelque chose de très intéressant à travers l'histoire lorsqu'elle se demande quelle devrait être son attitude par rapport à son mari. Elle a deux enfants, elle a un sentiment de devoir être juste à l'endroit de ses enfants, qui, eux, n'ont pas du tout croient encore en leur père, croient que leur père a été la victime d'un complot, ce qui est peut-être le cas. À l'heure où on se parle, donc, j'ai vu le dernier épisode hier, on ne sait absolument pas, en fait, où donner de la tête dans cette histoire donc, sexuelle du mari. Est-ce que c'est un complot contre lui? Est-ce qu'il est vraiment fautif? Un peu des deux, on ne sait absolument pas. Les enfants, eux, sont convaincus de l'innocence relative de leur père. La mère est prise entre la loyauté, l'amour qu'elle sent pour ses enfants, le devoir de protéger la famille, la colère quand même qu'elle ressent pour son mari, l'humiliation d'être une femme qui a été trompée avec une prostituée qui finit par raconter plein de choses sur l'aventure sexuelle qu'elle a eue avec le type dans les journaux et à la télé. Donc il y a, je crois, vraiment un personnage très intéressant, un personnage riche et un personnage qui pourrait devenir en quelque sorte un de ces personnages qu'on a envie de revoir de semaine en semaine. Contrairement à toi, j'ai préservé de mon enfant, et malgré le fait que je suis maintenant le propriétaire d'une HD TV avec un récepteur qui me permet d'enregistrer 300 heures de télévision sur le disque dur, j'ai gardé l'idée de la télé-rendez-vous. Pour moi, ER, c'est l'émission du jeudi soir. Et The Good Wife, ouais, c'est l'émission du mardi soir. Il y a un certain plaisir à pouvoir se dire, bah, la semaine prochaine, je verrai mardi à 10h ou à 9h, je verrai comment l'histoire va être prolongée. Ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées, parce qu'il faut, en fait organiser sa vie de manière à pouvoir y être. Bon, je triche parfois en enregistrant, mais voilà, donc pour moi, c'est la série qui va devenir, et j'espère qu'elle va être. Je ne sais pas si elle a déjà été recommandée pour la saison prochaine.
Je ne sais pas. Je crois qu'elle a été commandée pour une saison entière. Moi, j'aime beaucoup cette série aussi parce que c'est une série sur l'injustice et sur les apparences. Et justement, les deux auteurs, qui est un couple qui s'appelle Henry King et Michel et je ne sais plus comment King. Ils ont fait une autre série qui s'appelait Injustice, en deux mots, mais évidemment ça jouait sur l'expression, dans laquelle une équipe de gens qui étaient bénévoles enquêtait sur des gens qui étaient en prison et qui clamaient leur innocence. Et y a beaucoup de points communs entre les deux séries. La première n'avait pas duré. Il y a beaucoup de points communs. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de la culpabilité toujours en suspens ou en doute. Et c'est pour ça aussi que, comme toi, j'aime beaucoup.
Tu me fais penser à un autre sujet, et on va peut-être terminer là-dessus pour cette semaine, un sujet qu'on devrait aborder pendant l'un de nos feuilletons. Ce sont ce qu'on pourrait appeler les séries injustement délaissées. Oui. Nous avons probablement tous les deux une demi-douzaine de séries qu'on a commencé à regarder, qu'on s'est dit, bah, tout le monde va comprendre que c'est une des grandes séries de l'histoire de la télé, et qui, oui, au bout de 13 semaines, disparaissent. Moi, je peux penser, sans trop faire d'efforts, à une demi-douzaine de séries qui ont disparu, qui ont ensuite repris en vidéo, en DVD, un peu de leur public, parce qu'on les a redécouvertes. Par exemple, dans le cas de Judd Apatow, le grand metteur en scène comique, oui, de l'heure, qui avait fait deux séries qui n'avaient pas marché il y a quelques années. Tout d'un coup, on découvre que tous ces acteurs qu'on a appris à adorer dans ces films étaient déjà dans ces séries. Donc, les séries ont connu une deuxième vie en DVD. Mais il y a des cadavres de séries, absolument, d'excellentes séries dont on pourrait parler. Mais ce sera pour une autre fois.
À suivre la semaine prochaine.